Jardin d'Isis avec Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Antonin Artaud. Il est né à Marseille le 4 septembre 1896. Il est mort à Ivry-sur-Seine le 4 mars 1948. C'est un théoricien du théâtre, un acteur, un écrivain, essayiste, dessinateur et poète français. La poésie, la mise en scène, la drogue, les pèlerinages, le dessin et la radio, chacune de ces activités a été un outil entre ses mains, un moyen pour atteindre un peu de la réalité qui le fuit. Toute sa vie, il a lutté contre des douleurs physiques, diagnostiquées comme issues de syphilis héréditaire, avec des médicaments, des drogues. Cette omniprésence de la douleur influe sur ses relations comme sur sa création. Il subit aussi des séries d'électrochocs lors d'internements successifs et il passe les dernières années de sa vie dans des hôpitaux psychiatriques, notamment celui de Rodez. Si ces déséquilibres mentaux ont rendu ses relations humaines difficiles, ils ont aussi contribué à alimenter sa création. Antonin Artaud a tenté de transformer radicalement la littérature et surtout le théâtre. S'il n'y est pas parvenu de son vivant, il a certainement influencé les générations de l'après-mai 68, en particulier le théâtre américain et les situationnistes de la fin des années 60 qui se réclamaient de son esprit révolutionnaire. Dans son œuvre immense, il fait délirer l'art. Son œuvre graphique est également importante. Il a fait l'objet d'un legs important au Centre national de l'art et de la culture Georges Pompidou en 1994. Une partie de ses œuvres y a été exposée en 2011. Je vais m'intéresser à des textes écrits, de la poésie, de la prose, quelques contes parus entre 1924 et 1927. Antonin Artaud fut toute sa vie en proie à des troubles psychiques. Son œuvre, dont une grande partie est constituée de lettres dans sa correspondance, témoigne de ses troubles. La publication de sa correspondance avec Jacques Rivière, le directeur de la Nouvelle Revue Française, en 1924, annonce son entrée définitive dans le monde de la littérature. C'est un de ces témoignages où Antonin Artaud découvre et essaie d'expliquer l'anomalie de son être. Dans sa première lettre à Jacques Rivière, Artaud écrit... Et je vais vous lire le texte, un extrait du texte. « Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés, depuis le fait simple de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, formes de phrases, direction intérieure de la pensée, réaction simple de l'esprit. » Je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même, je le sais, j'en souffre, mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Tout ceci qui est très mal dit risque d'introduire une redoutable équivoque dans votre jugement sur moi. Il s'adresse à Jacques Rivière. C'est pourquoi, par égard pour le sentiment central qui me dicte mes poèmes et pour les images ou tournures fortes que j'ai pu trouver, je propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Ces tournures, ces expressions malvenues que vous me reprochez, je les ai senties et acceptées. Rappelez-vous, je ne les ai pas contestées. Elles proviennent de l'incertitude profonde de ma pensée. Bien heureux quand cette incertitude n'est pas remplacée par l'inexistence absolue dont je souffre quelquefois. Ici encore, je crains l'équivoque. Je voudrais que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de ce plus ou moins d'existence qui ressortit à ce que l'on est convenu d'appeler l'inspiration, mais d'une absence totale, d'une véritable déperdition. Et c'était une lettre qui date du 5 juin 1923. Thank you. Antonin Artaud, De l'ombilique des limbes, paru dès 1925 aux éditions de la Nouvelle Revue Française, a désormais fait sienne cette épreuve du néant qu'il frôle constamment, et elle deviendra non seulement un leitmotiv créateur, mais bien davantage le moteur même de l'œuvre, voire, en ce qui concerne la question de l'impossibilité d'être, l'élément obscur consubstantiel à toute son œuvre. Et je vais vous lire le premier texte de l'ombilique des limbes. Là où d'autres proposent des œuvres, je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit, la vie, et de brûler des questions. Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie. Je n'aime pas la création détachée. Je ne conçois pas non plus l'esprit comme détaché de lui-même. Chacune de mes œuvres, chacun des plans de moi-même, chacune des floraisons glaciaires de mon âme intérieure bave sur moi. Je me retrouve autant dans une lettre écrite pour expliquer le rétrécissement intime de mon être et le châtrage insensé de ma vie que dans un essai extérieur à moi-même et qui m'apparaît comme une grossesse indifférente de mon esprit. Je souffre que l'esprit ne soit pas dans la vie et que la vie ne soit pas l'esprit. Je souffre de l'esprit organe, de l'esprit traduction ou de l'esprit intimidation des choses pour les faire entrer dans l'esprit. Ce livre, je le mets en suspension dans la vie. Je veux qu'il soit mordu par les choses extérieures et d'abord par tous les soubresauts en cisaille, toutes les sciations de mon moi à venir. Toutes ces pages traînent comme des glaçons dans l'esprit. Qu'on excuse ma liberté absolue, je me refuse à faire de différence entre aucune des minutes de moi-même. Je ne reconnais pas dans l'esprit de plan. Il faut en finir avec l'esprit comme avec la littérature. Je dirais que l'esprit et la vie communiquent à tous les degrés. Je voudrais faire un livre qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n'auraient jamais consenti à aller, une porte simplement à boucher avec la réalité. Et ceci n'est pas plus une préface à un livre que les poèmes, par exemple, qui le jalonnent ou le dénombrement de toutes les rages du mal-être. Ceci n'est qu'un glaçon aussi mal avalé. Le Pesner est un recueil de textes d'Antonin Artaud paru en 1925. Cette œuvre, qui ne comporte qu'une trentaine de pages, est construite comme une succession de lettres à d'imaginaires lecteurs, fort différents les uns des autres. Artaud leur décrit son malaise existentiel, une sorte de feu intérieur qui le consume et rend sa vie insupportable. Dans un vocabulaire parfois cru, violent, il invective le monde. Sa quête, qu'il perçoit lui-même comme impossible, est celle de l'absolu. Dans un ouvrage à peine antérieur, La correspondance avec Jacques Rivière, dont je vous ai lu un extrait, il avait ébauché ce travail d'extériorisation de lui-même. C'est dans le pèse-nerfs que l'on mesure pleinement combien la tension qui affecte Artaud use sa santé mentale. Lecture. Toute l'écriture est de la cochonnerie. Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée sont des cochons. Toute la gent littéraire est cochonne, et particulièrement celle de ce temps-ci. Tous ceux qui ont des points de repère dans l'esprit, je veux dire, d'un certain côté de la tête, sur des emplacements bien localisés de leur cerveau, tous ceux qui sont maîtres de leur langue, tous ceux pour qui les mots ont un sens, tous ceux pour qui il existe des altitudes dans l'âme et des courants dans la pensée, ceux qui sont esprits de l'époque et qui ont nommé ces courants de pensée, je pense à leur besogne précise et à ce grincement d'automate que rend à tous les vents leur esprit, sont des cochons. Ceux pour qui certains mots ont un sens et certaines manières d'être, ceux qui font si bien des façons, ceux pour qui les sentiments ont des classes et qui discutent sur un degré quelconque de leur hilarante classification, ceux qui croient encore à des termes, ceux qui remuent des idéologies, ayant pris rang dans l'époque, ceux dont les femmes parlent si bien, et ces femmes aussi qui parlent si bien, et qui parlent des courants de l'époque, ceux qui croient encore à une orientation de l'esprit, ceux qui suivent des voix, qui agitent des noms, qui font crier les pages des livres, ceux-là sont les pires cochons. Vous êtes bien gratuit, jeune homme. Non, je pense à des critiques barbues, et je vous l'ai dit, pas d'œuvre, pas de langue, pas de parole, pas d'esprit, rien. Rien sinon un beau pèse-nerfs. Une sorte de station incompréhensible et toute droite au milieu de tout dans l'esprit. Et n'espérez pas que je vous nomme ce tout, en combien de parties il se divise, que je vous dise son poids, que je marche, que je me mette à discuter sur ce tout, et que discutant, je me perde et que je me mette ainsi sans le savoir à penser, et qu'il s'éclaire, qu'il vive, qu'il se pare d'une multitude de mots, tous bien frottés de sens, tous divers et capables de bien mettre au jour toutes les attitudes, toutes les nuances d'une très grande sensible et pénétrante pensée. Ah, ces états qu'on ne nomme jamais, ces situations éminentes d'âme, ah, ces intervalles d'esprit, ah, ces minuscules ratés qui sont le pain quotidien de mes heures. Ah, ce peuple fourmillant de données, ce sont toujours les mêmes mots qui me servent, et vraiment, je n'ai pas l'air de beaucoup bouger dans ma pensée. Mais j'y bouge, plus que vous en réalité. Barbe d'âne, cochon pertinent, maître du faux verbe, trousseur de portraits, feuilletoniste, rez-de-chaussée, herbagiste, entomologiste, plaie de ma langue. Je vous l'ai dit que je n'ai plus ma langue, ce n'est pas une raison pour que vous persistiez, pour que vous obstiniez dans la langue. Allons, je serai compris dans 10 ans, par les gens qui feront aujourd'hui ce que vous faites. Alors on connaîtra mes geysers, on verra mes glaces, on aura appris à dénaturer mes poisons, on décèlera mes jeux d'âme. Alors, tous mes cheveux seront coulés dans la chaux, toutes mes veines mentales. Alors, on percevra mon bestiaire et ma mystique sera devenue un chapeau. Alors, on verra fumer les jointures des pierres et d'arborescents bouquets dieux mentaux se cristalliseront en glossaires. Alors, on verra choir des aérolithes de pierre. Alors on verra des cordes, alors on comprendra la géométrie sans espace et on apprendra ce que c'est que la configuration de l'esprit. Et on comprendra comment j'ai perdu l'esprit. Alors on comprendra pourquoi mon esprit n'est pas là. Alors on verra toutes les langues tarir, tous les esprits se dessécher, toutes les langues se racornir. Les figures humaines s'aplatiront, se dégonfleront comme aspirées par des ventouses desséchantes, et cette lubrifiante membrane, continuera à flotter dans l'air. Cette membrane lubrifiante et caustique, cette membrane à deux épaisseurs, à multiples degrés, à un infini de lézardes, cette mélancolique et vitreuse membrane, mais si sensible, si pertinente elle aussi, si capable de se multiplier, de se dédoubler, de se retourner avec son miroitement de lézardes, de sens, de stupéfiant, d'irrigation pénétrante et vireuse, alors tout ceci sera trouvé bien et je n'aurai plus besoin de parler. Je vais vous lire deux poèmes parus en 1925 dans le disque vert. L'arbre. Cet arbre et son frémissement, forêt sombre d'appels, de cris, mange le cœur obscur de la nuit. Vinaigre ailé, le ciel, la mer, la masse épaisse du firmament, tout conspire à ce tremblement qui gîte au cœur épais de l'ombre. Un cœur qui crève, un astre dur qui se dédouble et fuse au ciel, le ciel limpide qui se fend à l'appel du soleil sonnant, font le même bruit que la nuit et l'arbre au centre du vent. Poème Vitre de son. Vitre de son où virent les astres, vers où cuisent les cerveaux. Le ciel fourmillant d'impudeur dévore la nudité des astres. Un lait bizarre et véhément fourmille au fond du firmament. Un escargot monte et dérange la placidité des nuages. Délices et rages, le ciel entier lance sur nous comme un nuage, un tourbillon d'ailes sauvages, torrentiel d'obscénité. Un texte en prose, Position de la chair, paru dans la Nouvelle Revue Française en 1925, écrit par Antonin Artaud. Je pense à la vie. Tous les mystères que je pourrais édifier n'égaleront jamais mes cris d'homme occupé à refaire sa vie. J'imagine un système où tout l'homme participerait. L'homme, avec sa chair physique et les hauteurs, la projection intellectuelle de son esprit. Il faut compter pour moi, avant tout, avec le magnétisme incompréhensible de l'homme. Avec ce que, faute d'une expression plus perçante, je suis bien obligée d'appeler sa force de vie. Ces forces informulées qui m'assiègent Il faudra bien un jour que ma raison les accueille, qu'elle s'installe à la place de la haute pensée. Ces forces qui, du dehors, ont la forme d'un cri. Il y a des cris intellectuels, des cris qui proviennent de la finesse des moelles. C'est cela, moi, que j'appelle la chair. Je ne sépare pas ma pensée de ma vie. Je refais à chacune des vibrations de ma langue tous les chemins de ma pensée dans ma chair. Il faut avoir été privé de la vie, de l'irradiation nerveuse de l'existence, de la complétude consciente du nerf, pour se rendre compte à quel point le sens et la science de toute pensée est caché dans la vitalité nerveuse des moelles et combien ils se trompent ceux qui font un sort à l'intelligence ou à l'absolue intellectualité. Il y a par-dessous la complétude du nerf. Il y a par-dessus tout la complétude du nerf, complétude qui tient toute la conscience et les chemins occultes de l'esprit dans la chair. Mais que suis-je au milieu de cette théorie de la chair, pour mieux dire de l'existence ? Je suis un homme qui a perdu sa vie et qui cherche par tous les moyens à lui faire reprendre sa place. Je suis en quelque sorte l'excitateur de ma propre vitalité. Vitalité qui m'est plus précieuse que la conscience, car ce qui chez les autres hommes n'est que le moyen d'être un homme est chez moi toute la raison. Dans le cours de cette recherche, enfouie dans les limbes de ma conscience, j'ai cru sentir les éclatements comme le heurt de pierres occultes ou la pétrification soudaine des feux. Des feux qui seraient comme des vérités insensibles et par miracle vitalisées. Mais il faut aller à pas lents sur la route des pierres mortes, surtout pour qui a perdu la connaissance des mots. C'est une science indescriptible et qui explose par poussée lente, et qui la possède ne la connaît pas. Mais les anges aussi ne connaissent pas, car toute vraie connaissance est obscure. L'esprit clair appartient à la matière. Je veux dire, l'esprit, à un moment donné, clair. Mais il faut que j'inspecte ce sens de la chair qui doit me donner une métaphysique de l'être et la connaissance définitive de la vie. Pour moi, qui dit chair, dit avant tout appréhension, poils hérissés, chair à nu, avec tout l'approfondissement intellectuel de ce spectacle de la chair pure et toutes ses conséquences dans l'essence, c'est-à-dire dans le sentiment. Et qui dit sentiment, dit pressentiment, c'est-à-dire connaissance directe, communication retournée et qui s'éclaire de l'intérieur. Il y a un esprit dans la chair, mais un esprit prompt comme la foudre. Et toutefois, l'ébranlement de la chair participe de la substance haute de l'esprit. Et toutefois, qui dit chair, dit aussi sensibilité. Sensibilité, c'est-à-dire appropriation, mais appropriation intime, secrète, profonde, absolue de ma douleur à moi-même. Et par conséquent, connaissance solitaire et unique de cette douleur. Les deux poèmes et ce texte que je viens de vous lire sont issus de la période surréaliste de Antonin Artaud. Antonin Artaud adhère dès 1924 au groupe surréaliste. Il dirige la centrale du bureau de recherche surréaliste. Il collabore activement à la révolution surréaliste jusqu'en 1926. On comprendra qu'il s'en éloigne ensuite. J'espère que vous avez aimé écouter ces textes autour de la métaphysique d'Antonin Artaud. Vous pouvez retrouver l'émission sur les podcasts de Radio FM+, Jardin d'Isis est diffusé le jeudi à 13h15 et 19h15 environ.
Les plages musicales que nous avons entendues tout au long de cette émission, la première plage musicale c'est Claude Debussy et ensuite extrait de L'Oiseau de Feu de Stravinsky.